Bonjour, bonsoir, Bonjour, bonsoir, dépendamment du moment où vous nous écoutez. Vous êtes à Voix de Fil, émission du collectif Anarchiste la Nuit sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec, en compagnie de Nicolas,
Janie,
Farouko et Guillaume, qui devraient arriver d'un instant à l'autre. Cette semaine à l'émission, on va avoir beaucoup de contenu, ma foi, une entrevue avec Alain Deneau, de l'auteur de Noir Canada, le livre qui a valu à Éco-Société son premier slap à vie. Il va être à Québec pour une conférence demain à l'Université Laval, donc on va l'avoir en entrevue, c'est Guillaume qui va mener ça. Janie, toi, de ton côté?
Moi, je vais vous parler d'une mesure qui, dans le budget, qui fait rager les fonctionnaires fédéraux.
Et sinon, autrement, ben, comme prévu, comme on vous l'avait annoncé la semaine dernière, on va voir Alex Fata, sculpteur surréaliste qui expose actuellement à la bibliothèque Gabriel-Leroy depuis cet après-midi, ma foi, qui va venir répondre à nos questions. Et bonne entrevue avec Alex qui sera en studio d'un instant à l'autre. Sinon, ben, évidemment, on a aussi, s'il nous reste du temps, notre bulletin habituel. Plusieurs nouvelles qui ont attiré notre attention dans la dernière semaine. Donc voilà, c'est votre fait sur les ondes de CKIA 88.3. Alors, vous venez d'entendre LKG Fight Them Back sur les ondes de Sequoia 83 Québec. Et donc, voilà. Voilà de fait. Aujourd'hui, le 28 janvier, en fait, hier, si vous nous écoutez en reprise, il y avait l'inauguration, en fait, l'ouverture de l'exposition Œil liquide à la bibliothèque Gabriel Leroy, une exposition des sculptures d'Alex Fata, un artiste de la région de Québec, qui s'est justement exposé à la bibliothèque Gabriel Leroy, des sculptures qui ont servi de base à un livre qui est sorti il y a quelques mois, un bouquin qui s'appelle Œil liquide. Donc, on est avec nous, Alex, pour en jaser, mais coudonc. Bonjour.
Allô.
Donc, comment ça va?
Ça va très bien.
Donc, toi, on se ramasse. Bon, premièrement, une chose qui m'a frappé quand j'ai vu les affiches pour ton bouquin, parce que c'est pas tout à fait présenté de la même façon pour l'exposition. On parlait de sculpture surréaliste.
Oui.
C'est quoi de la sculpture surréaliste?
En fait... Je sais pas si tu te souviens, tu m'as déjà posé une question un peu similaire.
Oui, mais on n'était pas en onde.
Non, c'est ça. Évidemment, mais je pense que ce qui est surréaliste, c'est pas nécessairement la sculpture en tant que telle, c'est plutôt l'état d'esprit de la personne qui va se livrer à la création. Il y a toutes sortes de façons de créer, comme le 20e siècle nous l'a montré. Il y a eu tellement de façons de le faire. Ça peut être du côté de l'irrationnel comme du côté très rationnel. La sculpture, la peinture, les différents modes d'expression qui ont été empruntés par les surréalistes étaient plutôt une façon de d'aller chercher les forces de l'inconscient qui font créer ces images-là, qui nous révèlent à nous-mêmes.
Les forces brutes de l'individu, bref.
Exactement, exactement.
Et donc, c'est parce que t'es allé chercher tes forces brutes.
On peut dire.
Donc, tu l'as fait dans une perspective comme ça. On a ramené souvent le surréalisme avec quand même le surréalisme. Pardon. Est-ce que ça se dit, je sais qu'on ne dit pas situationnisme, mais est-ce qu'on peut dire surréalisme?
Je pense qu'aujourd'hui, comme on l'a déjà dit, c'est aussi qu'on peut dire situationnisme.
Oui.
Mais pas en onde, mais surréalisme, surréaliste, tout ça se dit. Ouais.
Le surréalisme, en tout cas, bref, historiquement, ça se situe dans une perspective subversive de bousculement, à tout le moins. Mm-hmm. Et de révolution de l'art et ouais. par extension de la société au complet, ouais. C'était dans une volonté éminemment subversive. Ouais. Et bon, évidemment, si on regarde tes œuvres, c'est pas commun, disons, et c'est pas quelque chose de nécessairement facile à regarder ou à digérer. Mais moi, je me demandais, est-ce que l'art, la sculpture, par exemple, peut encore avoir une charge subversive? Est-ce que tu le vois comme ça ou c'est...
Personnellement, non. Je fais une nette distinction entre ma façon de voir ce qu'est le surréalisme et ce qu'a été, ce qu'est encore, toute l'ambition des ce qu'on a appelé les avant-gardes, un terme qui est très contestable. Mais je pense que... ce que ça peut faire encore aujourd'hui, c'est stimuler l'imagination, mais au départ, l'art surréaliste n'était pas censé se ramasser dans les galeries, mais étant donné qu'on vit dans un monde capitaliste, on a toujours tendance finalement à ne pas semer à tout vent dans les rues de la ville nos créations, puis à les garder en se disant « ben ça me fait un capital, à un moment donné quelqu'un va me l'acheter ». Fait que d'une manière ou d'une autre, c'est toujours le fait qu'on vit dans un monde de fric, puis que si on n'a pas de fric, on crève de faim, qui fait que finalement, on finit par réduire finalement la portée de ce qu'on voudrait faire. Ça reste des œuvres d'art qui sont, d'une certaine façon, assez séparées de la vie, tu sais. Donc, ça n'a pas toute la portée que le surréalisme a voulu donner. Je fais quand même une nette distinction entre ça, puis c'est ça, toute l'ambition qu'il y avait avec ça.
Et comment t'en es arrivé, parce que là, c'est pas... Je sais pas ce que tu produisais avant, mais là, il y en a comme toute une exposition. En fait, il y en a tout un bouquin. Mm-hmm. Vraiment une série complète de sculptures qui est regroupée là, sous le titre liquide, mm-hmm. dans le fond. C'est quoi la genèse de ça? Comment t'en es arrivé à... Parce que là, c'est plus juste une, deux, puis trois. C'est toute une trolle. Je sais pas combien il y en a, en fait.
Ah, ben dans le livre, il y en a 23.
OK.
Oh, c'est dur à dire, ça. En fait...
Ça se réfléchit comme une série?
Non, non, moi ça vient comme ça. C'est que ça vient par période, j'ai un intérêt pour une chose, puis ça se met à débouler comme ça, tu sais. Par exemple, il y a quelques années, j'ai carrément arrêté de produire, je me suis mis à noter mes rêves. Pendant 2 ans, j'ai noté quelque chose comme 250 rêves, tu sais. Fait que ça a été une période, finalement, où j'ai plongé dans mon imaginaire plus profond encore, tu vas dans ton inconscient encore plus profond que si tu pars d'images, disons, hypnagogiques, là, de demi-sommeil ou de conscience altérée qui est celle de la création artistique très souvent, tu sais. Mais après ça, bon, c'est ça, je suis passé finalement à la peinture, puis tout à coup j'ai arrêté de rêver, je me souvenais plus de mes rêves, puis c'est comme si ce que j'avais à sortir sortait par la peinture. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais...
Donc quand tu mets tes rêves, tu crées pas, puis quand tu fais...
Il y a quelque chose de même, on dirait que l'un exclut presque l'autre. C'est sûrement pas le cas de tous ceux qui nous écoutent.
C'est
le
mien. Mais c'est le tien.
Mais c'est le mien, c'est ça.
Puis t'es passé de la sculpture, à la sculpture.
Oui, spontanément comme ça, je sais pas pourquoi. En fait, je pense que c'est parce qu'au niveau de la peinture, il y a toujours un côté stylistique à développer. Les empattements de peinture, ta sorte de coups de pinceau, toute ton écriture plastique que tu es obligé de construire, qui finit par s'interposer entre toi puis le sujet que tu veux traiter, tu sais.
C'est beaucoup de technique.
De technique, oui. On pourrait dire ça. Ça finit par s'interposer, c'est le côté esthétique de l'affaire. Tandis que tu vois, mes objets, j'ai pas vraiment à me poser de questions esthétiques. C'est plutôt la rencontre analogique de une, deux, trois, quatre choses qui vont créer l'étincelle poétique.
Ben, c'est souvent le télescopage.
Le télescopage.
Et ça fait longtemps que tu fais de la sculpture comme ça? Ça a pris combien de temps avant d'arriver à...
Ça fait 2 ans que je fais de la sculpture. C'est ça ma production de sculpture. Pas ce qui est exposé en ce moment. Là, il y en a 9 exposés, mais c'est ce qu'il y a dans le livre.
OK. Puis, et comment t'en es arrivé à sortir un livre? Parce que bon, entre la sculpture et le livre, il y a quand même un...
Ben, il y a le fait que, étant donné que je suis passé du pictural au sculptural, ben, mes sculptures se regardent pas nécessairement de tous les côtés. Tu fais le tour de la sculpture, puis à un moment donné, tu pognes un angle où elle devient intéressante. C'est-à-dire l'angle, de la façon que moi, je la voyais en la travaillant. Je travaille un peu comme un peintre quand je fais de la sculpture.
Tu peins des sculptures.
On peut dire ça. Ce qui fait que je les prenais en photo, puis les photos sont plus efficaces que les sculptures, je trouve. Fait que... Puis bon, il y avait Sam Murdoch là, de P572, du groupe Les Beaux-Vauvin, soit déjà d'être Polka, tout ça, là, assez connu pour que je fasse pas sa pub, mais qui m'a proposé de faire un livre. Puis c'est ça, je me suis embarqué là-dedans, puis je suis bien content. J'ai mis tout ce que j'avais aussi de texte. J'écris pas beaucoup, mais j'ai pris vraiment la crème de ce que j'avais fait, puis je l'ai mis là-dedans. Puis ça a marché.
Le livre, justement, il est sorti quand même quelques mois, ça va bien?
J'en ai plus.
T'en as plus?
J'en ai plus.
Fait que là, si les auditeurs, les auditrices, ils veulent voir les autres sculptures qui sont pas dans l'exposition...
En fait, il reste un exemplaire à page noire, il reste 2 exemplaires à Librairie Pantoute, puis 2 au Vaisseau d'or. Mais moi, en ma possession, là, tout ce que j'avais est parti.
Ouais, ça devrait satisfaire l'ensemble de nos auditeurs, ça.
Ouais.
Non, mais... Donc, on est arrivé avec ça, puis là, du bouquin à l'Institut canadien, puisque bon, c'est ça, la Bibliothèque Gabriel Leroy, c'est l'Institut canadien. Comment on s'est ramassé là?
Oh, ben, j'ai juste fait une demande.
Tant qu'on va faire des sculptures, on va les exposer.
Ben, c'est ça. J'avais une copine qui me poussait parce qu'elle trouvait que je faisais rien. Et finalement, j'ai fait une demande pour y prouver que j'allais faire quelque chose. Puis ça a marché, c'est tout.
Et est-ce que ça l'a amené des compromis? Parce que bon, tu dis, il y en a 9, là, qui sont exposés, sur 23.
Ah, évidemment qu'il y a eu des compromis. Je veux dire, moi, j'ai pas exposé ce que je trouvais... intéressant sur photo, mais vraiment pas intéressant visuellement sur un socle. Ce qui fait que, bon, puis aussi, ben, la bibliothèque ont censuré tout ce qui avait une portée légèrement sexuelle, à part celle qui est sur l'affiche.
Les jambes je sais pas si vous promenez au centre-ville, il y a une affiche noire qui traîne un peu partout. C'est des bas, en fait.
C'est des jambes de mannequins femmes avec des bas de nylon, puis il y a des espèces de nuages qui sortent là, comme d'astime. Mais c'est ça, ben, c'est qu'en fait, c'est certain que bon, c'est une bibliothèque, puis ils veulent pas montrer de sexe aux enfants parce que ils pensent que c'est meilleur de leur montrer de la violence à la télé toute la journée puis de cacher le sexe. À mon avis, c'est ce que je trouve assez débile, hein, qu'on cache tout ce qui a un petit côté le moindrement érotique.
J'ai vu, est-ce que c'est spécifique à l'Institut canadien? J'ai vu quand même qu'il y avait certaines de, bon, peut-être c'est moi qui sors pas beaucoup puis que finalement je vais juste aller jeter dans la vie, fait que c'est juste là qu'il y en a, mais j'ai vu qu'il y en avait certaines qui étaient exposées ailleurs. Est-ce que c'est un problème qui s'est posé ailleurs?
Certaines qui étaient exposées ailleurs.
Peut-être est-ce que ça? Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui c'est fréquent qu'on veut pas les montrer celles-là ou
c'est spécifique
à l'Institut canadien?
C'est spécifique à l'Institut canadien parce que c'est un caractère bon disons pédagogique puis tout ça, fait qu'ils veulent éviter de heurter les consciences tout ça. Mais dans une galerie tu peux exposer vraiment n'importe quoi.
Ok. J'aurais aimé ça revenir quand même un petit peu sur la démarche, puis comment tu travailles, puis on pourra revenir après ça sur l'expo en tant que telle, parce que j'ai vu là ton... en fait, tu m'as envoyé gracieusement ton texte d'introduction pour l'exposition, en fait, puis ça m'a frappé un peu... en fait, comment tu travailles? Comment tu arrives à ça? Parce que tu dis c'est une rencontre, en fait...
Je travaille de différentes manières, là.
Tu parlais des brocantes dans ton texte, mais ça m'a frappé.
Ah oui. Ben, les marchés aux puces, là, tu te promènes là-dedans, puis à un moment donné, tu vois un objet qui semble vouloir être autre chose que ce qui est là, tu sais. Ou t'en prends deux, comme ça, par pur hasard, puis tu te rends compte que, en les mettant ensemble, il y a une étincelle qui se crée. Ou même ça peut venir d'une phrase, d'un jeu de mots, n'importe quoi, tu sais. Par exemple, t'as vu le téléphone, à la place d'avoir une acoustique, là, le téléphone, c'est un fusil qui sort là-dessus, tu sais.
Oui.
Fait que, ce truc-là, bon, je regardais un livre de peinture, c'était des peintures cubistes, puis je regardais pas les peintures parce que j'aime pas le cubisme. Mais c'est une période cubiste, là, d'un peintre que j'aimais bien. Puis, ben, il y avait un titre qui était Téléphone Revolver. Puis, à ce moment-là, ça m'a fait voir cette image-là dans ma tête. Mais quand je regardais l'image, c'était un téléphone à côté d'un revolver sur une table. T'sais. Mais tu vois, juste le fait de le dire comme ça, pouf, il y a cette espèce de rencontre-là qui s'est faite du téléphone que quand tu le décroches, tu te le mets sur la tempe. T'sais. C'est le fusil, finalement.
Et celle-là, est-ce qu'elle est exposée?
Oui, elle a. Puis elle a servi aussi pour l'affiche de la bibliothèque.
Ah, la bibliothèque a une autre affiche.
Oui, ils ont fait une affiche.
Ils ont fait leur propre affiche.
Oui, c'est ça.
D'accord. Oui, mais c'est intéressant quand même aussi de pouvoir ramener là des objets qui n'ont pas nécessairement de lien, puis de leur donner un autre sens. En fait, tu fais ce que beaucoup de gens aimeraient pouvoir faire. C'est compliqué à produire?
Non, mais ça dépend ce que c'est. Il y a certaines des œuvres, même le plus grand nombre de ces œuvres-là, qui m'ont pris peut-être 15 minutes, une heure, tu sais. Il y en a une, c'est une espèce de tête.
Dis-moi, tu dis 15 minutes, une heure, ça veut dire que moi, ça m'en prendrait 4 à 5?
Non, c'est juste que t'aurais pas l'idée. Mais, non, c'est ça, c'est que, par exemple, il y en a une que si les gens vont voir l'expo, là, c'est une espèce de tête, je ne sais pas si c'est une belette, là, ça ressemble un peu à un petit renard ou à une belette, bon, c'est une tête de...
Un animal.
Un animal.
Empaillé.
Un animal carnivore qui c'est ça, empaillé, qui... La tête sort d'un petit panier d'osier, puis attrape un écureuil à la gorge. Bon, ben ça, l'écureuil, en fait, l'animal l'avait déjà dans sa gueule. Il était empaillé dans la gueule de l'autre animal empaillé, puis il pendait. Puis moi, quand j'ai coupé la tête, c'était pour m'en débarrasser. Je voulais utiliser le corps pour faire autre chose. Mais en tenant la tête dans ma main, j'ai vu la forme que prenait l'écureuil. Puis j'ai vraiment eu l'impression que la tête bondissait. Puis là, j'ai dit, bon, de quoi ça pourrait sortir? Puis j'ai regardé sur ma table de travail, il y avait ce petit panier-là. Je l'ai mis dedans. Je lui ai dit, il manque juste des noisettes à mettre dans le panier, puis autour, comme si c'était un panier de noisettes, mais que la bête était sortie.
Un piège.
Un piège, exact. Puis tu vois, tout ce que j'ai eu à faire après ça pour terminer l'œuvre, c'est d'aller à l'Intermarché me chercher des noix.
Donc, un investissement de capital très important.
Exactement. Surtout si je la vends.
Oui.
Si je fais 500-600 pièces avec, pour le temps que ça a pris, c'est quand même assez rentable.
Alors, marchandise. En fait, je me demandais aussi... en tout cas, moi, elle me parle. Bon, celle que j'ai vue, puis je dois avouer que j'ai pas... je suis pas un de tes nombreux lecteurs, il faudrait que je le devienne à un moment donné. Là, je pensais qu'il y en aurait facilement trouvable, mais là, tu es en train de me dire qu'il y a un phénomène de rareté autour de cette chose-là.
Ah ben, ouais, ouais, ça pourrait ressortir, là, mais je peux rien dire pour l'instant, c'est pas fait.
C'est pas fait. Bref, moi ça me parle, ça fait sens, mais je me demandais, qu'est-ce que tu cherches à faire avec ça? Est-ce qu'il y a une démarche, est-ce qu'il y a un objectif, une intention avec les œuvres, ou c'est vraiment juste comme, ah c'est rigolo, puis...
Ça dépend. S'il y a une démarche, la démarche en fait, c'est la démarche analogique qui est... Ben, la démarche analogique, comme on parlait tantôt du télescopage, qui est finalement de briser intérieurement des barrières entre les choses, entre les concepts, pour ce qui est aussi des fois de l'écriture, tout ça. Ça, tout ce que ça fait, c'est que ça élargit la liberté de l'esprit. Mais pour ce qui est des... Si je mets un message ou quoi que ce soit, ça m'arrive de faire une œuvre à message, comme de ma pancarte, antimilitariste. Mais ça, encore là, tu vois, c'est l'idée me vient toujours très spontanément. Comme celle dont on parle, la pancarte, ben j'avais vu votre annonce.
En fait, c'est un moulin à viande, c'est un soldat moulin à viande.
Finalement. Ben c'est ça, c'est un soldat qui tient un fusil, puis le fusil est aussi un moulin à viande. Sa tête rentre dans le moulin, puis ressort au bout sous forme de chair à canon. Mais c'est que j'avais vu l'annonce sur Voix de Fait, de la manifestation qu'il allait y avoir, puis en arrivant chez nous, en ouvrant la porte de mon appartement, ça fait cling, je l'ai vu apparaître dans ma tête, puis je l'ai fait. Ça a pris 2 heures, puis c'était fait. Fait que c'est ce genre de choses-là, ou tiens, par exemple, celle de l'affiche, l'œuvre de l'affiche. C'est 2 ans avant que je fasse l'œuvre. Chaque fois que je prenais ma douche, pendant une affaire comme 3 mois, je fermais mes yeux en me lavant la tête, mettons, tiens, puis je voyais cette image-là apparaître dans ma tête, sans arrêt.
Les jambes de mannequin.
Oui, puis ben, les jambes de femme avec
la steam.
La steam. j'oubliais toujours de la dessiner quand je sortais de la douche. Fait qu'à un moment donné, je suis sorti tout mouillé pour dessiner ça vite pour pouvoir m'en rappeler, parce que je trouvais l'image bien forte, tu sais. Puis 2 ans plus tard, j'ai dit, tiens, je vais me chercher des jambes de mannequin, puis je vais la faire, tu sais. Mais c'est ça, c'est des choses qui viennent d'un coup comme ça, puis c'est ce qu'on appelle un phénomène hypnagogique.
Hypnagogique.
Hypnagogique, c'est quand on... C'est ce qui surgit, les images qui surgissent spontanément de ton inconscient.
Donc, si on veut voir tout ça, là, t'exposes actuellement à Gabriel Leroy.
Oui.
Puis jusqu'au 24 février, en fait, donc à la Bibliothèque Gabriel Leroy dans Saint-Roch. Et si jamais on veut voir tout ça et l'artiste pour lui parler, t'as un vernissage le 1er février de 14h à 16h.
Ouais, j'avoue que j'ai écrit vernissage sur l'affiche, mais que la bibliothèque...
Tu vas être là.
Oui, je vais être là. La bibliothèque dise l'artiste sera présent de 14 à 16h.
Donc, tu vas pouvoir les présenter, en parler. Dis-moi, t'as quelque chose à rajouter?
Non.
Non? Farouk, on s'en va en musique avec quoi?
Militarisme,
Vous êtes à voix de fait sur les ondes 88.3 à Québec. Alors, ça, ce qu'on vient d'entendre, c'est les joies d'Internet. On trouve des choses merveilleuses là-dessus. Ça, j'ai trouvé ça sur le site de La Canaille du Midi, qui est en fait une chorale. Et puis, ben, c'est une autre chorale française. C'est les 100 noms qui chantent ça. Alors, on peut trouver ça un peu partout. Puis, bon, on va faire un lien sur notre blog. C'est très comique. C'est des chorales françaises, finalement, qui font des vieilles chansons anarchistes. Ceux et celles qui sont un peu ferrés là-dedans ont reconnu Révolte, un texte de Sébastien Faure fait en 1898, je crois. Donc voilà, on rentre dans notre bloc de bulletin de nouvelles. Difficile de passer à côté du budget, effectivement, ben, c'est dans tous les médias. Les conservateurs gagnent sur tous les tableaux. Je suis pas économiste, là, mais il y a une chose que je sais, on peut pas à la fois réduire les revenus et augmenter les dépenses. Ça marche juste pas. Ça fait des années qu'on baisse les taxes et les impôts, puis ça a pas empêché la crise. En fait, les baisses d'impôts d'hier forcent aujourd'hui le gouvernement à emprunter pour payer l'épicerie et soutenir l'économie. Le pire, c'est que les nouvelles baisses d'impôts vont saper encore plus les finances publiques et nous garantissent que le gouvernement pourra tout simplement pas intervenir la prochaine fois. D'ailleurs, de cette façon-là, les conservateurs sont gagnants sur tous les tableaux. D'un côté, leur opportunisme interventionniste, entre gros guillemets, là, ce qui les fait passer pour des libéraux aux yeux de certains chroniqueurs, leur permet de survivre dans l'immédiat, mais d'autre part, les baisses d'impôts leur garantissent que les gouvernements de demain vont être condamnés d'appliquer le programme gouvernemental du Parti conservateur, à savoir le laisser-faire économique et la non-intervention, parce qu'ils n'ont simplement pas les moyens d'intervenir. Ce qui m'amène à... En fait, on a beaucoup épilogué là, sur le passé fontarien de Bob Rae, lors de la non-course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Vous savez, là, à un moment donné, il est presque été question d'une course à la chefferie pour remplacer Stéphane Dion. Et donc, on a beaucoup parlé donc de son passé fontarien. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de course finalement. Et on parle évidemment de son passage aux commandes de la province la plus riche du Canada qui a été, semble-t-il, économiquement désastreux. Curieusement, il n'y a personne qui a jugé bon d'avertir les contribuables canadiens du passif ontarien de Jim Flaherty, le ministre conservateur des Finances, dont le passage comme ministre des Finances de la province ontarienne sous Mike Harris avait été tout aussi désastreux. Et il faut savoir que les baisses d'impôts à répétition avaient tellement affecté les finances ontariennes que le gouvernement suivant, le gouvernement libéral, avait dû se résoudre à augmenter les impôts pour se sortir du trou. Alors, le prochain tabou à briser après celui du déficit zéro, ça va être celui de la hausse des impôts. À moins que d'ici là, les contribuables se mettent à remettre massivement en question le système capitaliste dans son ensemble. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce budget-là, et il y en a une qui est passée relativement sous silence.
Ça, c'est la volonté du gouvernement d'imposer un plafond salarial aux employés fédéraux. Ça, dans le budget, vous voudrez appliquer un plafond salarial qui devrait pas dépasser 1,5% d'augmentation pour les 3 prochaines années. Puis ça, ben, ça fait rager pas mal de fonctionnaires, on s'entend, parce que, tu sais, avant les fêtes, justement, on se rappelle qu'on voulait enlever le droit de grève. Là, ils leur disent d'abord, ouais, vous pourrez faire un droit de grève, mais... Bon, sauf sa question salariale, par exemple. Bon, ça tourne quasiment à rien.
Et il s'attaque, est-ce qu'il s'attaque à l'équité salariale, finalement?
C'était non, ben, les plans? Ça, il n'en parlait pas, dans le fond. Puis que la vice-présidente de l'Alliance de la fonction publique du Canada, Patty Ducharme, a affirmé que son syndicat, qui représente plus de 100 000 fonctionnaires, était prêt à monter aux barricades. Ça, puis ils veulent resserrer les défenses au niveau des fonctionnaires. Et pourtant, il y a pas un mot sur le fait que le blitz de Stephen Harper, qui est partout dans la pétroville canadienne, juste avant les élections, ça a coûté 20 000 $ mais ça...
Eh ben, y avait-tu d'autres choses par rapport à ça?
Non.
Non? Oui, ben, parlant de gros sous, c'est la crise, il paraît qu'on a perdu, là. C'était quoi qu'il disait dans le soleil, mercredi, 64 000 emplois en 24 heures, enfin la même. En tout cas, ça pue de bon sens, et la crise atteint tous les secteurs. Alors, il y a Microsoft, par exemple, qui est atteint par la crise économique, mais les gestionnaires ont la situation bien en main, alors ils vont licencier 5000 personnes pour rétablir les comptes et satisfaire les actionnaires. Et Steve Ballmer, le PDG, se fait très rassurant. Il dit qu'ils sont pas immunisés contre les effets d'une économie en déclin, mais qu'ils vont continuer à investir dans des opportunités de croissance à long terme et gérer les dépenses avec précaution afin de dégager un maximum de valeur pour les actionnaires. En passant, la cause de tout ce branle-bas de combat et de ces 5000 licenciements, c'est une baisse dans les profits de Microsoft au deuxième trimestre. On est en effet passé de 4,71 milliards de dollars l'année dernière à 4,17 milliards de dollars cette année. Décidément, la crise a le dos large et les capitalistes du front tout le tour de la tête. Et parlant de front tout le tour de la tête, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a beaucoup de jugements. On apprenait récemment que Citigroup, le géant bancaire, prévoyait dépenser 50 millions de dollars pour acquérir un jet français de luxe. Et cet achat-là a soulevé l'indignation des médias et des politiciens, un peu à l'image des dirigeants des constructeurs automobiles qui sont arrivés en jet privé à Washington pour revendiquer 50 milliards de dollars pour se sortir du trou. Un point tel, en fait, que la direction de l'entreprise s'est finalement ravisée et a décidé de laisser faire. Il faut dire que le trésor américain vient à peine de casquer 45 milliards de dollars pour sauver Citigroup de la faillite. Dire que depuis des décennies, on s'en remet au jugement de cette classe de dirigeants pour tout et son contraire. Est-ce que j'ai le temps? Oui, j'ai le temps pour une dernière nouvelle et après ça, on va passer à Guillaume qui fait une entrevue avec Alain Deneau, l'auteur de Noir Canada, sur les ondes d'Escaya. En fait, oui, ben c'est ça, c'est la Régie du logement qui a publié hier ses estimations moyennes d'augmentation de loyer pour l'année 2009. Alors, signe que la crise du logement est passée de mode, il n'y a presque rien à ce sujet-là dans les journaux, alors qu'avant, ça faisait la une. Pourtant, la situation est grave. En fait, c'est lundi que ça a été publié, pardon. Donc, les taux de la Régie, c'est pour les logements qui sont chauffés par les locataires, normalement, votre propriétaire ne devrait pas vous donner une hausse de loyer de plus que 0,6%. Et ça se corse un peu pour les logements chauffés par les propriétaires. C'est-à-dire si vous ne payez pas le chauffage finalement. À l'électricité, c'est 0,8%, au gaz, 1,8% et au mazout, 5,1%. En lisant ça, on pourrait se dire qu'à part pour les logements chauffés au mazout, c'est vraiment pas si pire comme augmentation de loyer. Le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la vraie vie parce qu'il n'y a pas de contrôle des loyers digne de ce nom au Québec. Dans le monde rose-nanane de la Régie du logement, les loyers ont augmenté de 11% en 2000 et 2008, sauf que les locataires ne vivent pas dans ce monde rose-nanane-là. Ils sont pas nés avec des propriétaires qui veulent faire plus de sous. Donc, durant la même période, le loyer moyen a subi une augmentation réelle de 26,1% à Québec pour atteindre 653 $ par mois en octobre dernier. Alors, voilà, si jamais vous recevez une hausse de loyer qui est plus importante que ces taux-là, vous êtes très fortement invité à creuser la question et à contacter votre comité de logement ou association de locataires pour voir si la hausse est abusive. D'ailleurs, faut pas oublier que vous avez toujours le droit de refuser une hausse de loyer tout en restant dans votre logement.
Amen.
Vous écoutez Voix de Fait.
Ah bah c'était bon, hein.
Oh oui, mais c'était court.
Ma dégaine comme Charlie Chaplin. J'suis fatigué mais j'ai des sapes clean. Au feu passe c'est ce qui rôle. V'là les Elliot Ness. L'un de mes blogs me fouille. Tape mes fesses. Balance ma paperasse dans la face du gars. Comme pour prouver ma bonne foi malgré ma gueule en bois. Rien à faire à l'Otango Alpha c'est toujours pour moi. Il vérifie l'identité de Bamboula. Laurent Désiré Kabila, pas moi la vie de ma mère. Frère, j'suis né en France, j'habite juste derrière. Rien à faire, pour eux j'suis né dans une flaque de boue. Pour eux c'est grâce à la drogue que je tiens debout. Y'a trop de préjugés faxés dans leurs esprits. Le Saint-Islam brûle, les tours Eiffel à Paris. Mène de Fatma sous nos pulls, j'suis filmé quand je prie. Je me cache mais les flashs crachent quand je vis. Quoi? Pourquoi tu me regardes? Je suis pas Jack le Venteur, c'est bon, tu peux baisser ta garde. Stop ta méga, les gardes me barrent. De questions à la con, ils tournent en rond. Contrôle mes papiers et puis s'en vont. Ma vie tourne en boucle comme le jour de la marmotte. Les vieilles marmottes sur mon compte et les bourgeois sursautent. Sans deck, je fais mon l'air de mec qui arrache les têtes. Je ne cache pas des gilets dans mes baskets. Espère et n'est, je vis avec un cliché que j'ai jamais exigé. Bientôt ma tête va craquer comme Jean-François Richer. Fiché, sans raison fâché, tel un garçon bouché. Ça me fait chier de voir tous ces gens louchés. Comme si je sortais de chez Pender. Les flics me chopent comme les filles chopent les chipendels. Je suis à bout de nerfs, pourtant je suis comme toi. Et ouais, j'ai deux bras de jambes. La différence c'est quand je passe devant les gens, leurs membres tremblent. J'ai l'aspect d'un suspect à n'importe quelle heure, frère. L'aspect à n'importe quelle heure, frère. Suspect à n'importe quelle heure, frère. J'ai l'aspect d'un suspect. J'ai l'aspect d'un suspect à n'importe quelle heure. N'importe quelle heure, frère. Suspect à n'importe quelle heure, frère. J'ai l'aspect d'un suspect. Ça m'énerve, on me prend pour un bandit. Quand dans les casinos je passe au rayon ici. Vigile, chien de garde, classé 1, au hit parade. Souvent black ou arabe, pour la mascarade. Au rayon poulet, les vieilles qui changent leur sac de côté. Porte plainte et vont voter quand mon regard les a croisés. À la caisse mon chèque oblige ma carte d'identité. Mon passeport, mon assurance, mes pitances de loyer. Parfois j'en ai assez saqué comme Nico Sacco. Je rêve de faire ce qu'on me reproche pour mieux me sentir dans ma peau. Car ma gueule et ma peau me collent à la peau. Je reste noir en ville sous le soleil en vélo. Dans le métro, mon sac à dos mis à sac par la sécu. Pourtant y'a pas de bombe, que des feuilles pour la sécu. Assis dans le wagon, les yeux soupçonnent mon vécu. Et grince des dents quand je me mouche avec un bout de PQ. Vigilant face aux vigiles, j'évolue sur terre comme un indien dans la ville. C'est pas facile, jamais tranquille. J'peux même pas taper le style. On me croirait dérangé, dangereux, venu de l'asile. Faudrait-il que je marche les mains en l'air constamment. Que j'incorpore ma carte d'identité sur mes vêtements. Sous pression comme une bouteille de gazeuse. C'est le parano, je mène une vie trop dangereuse. Allez arrête, sors de ta cachette secrète. Je t'ai vu, tu me surveilles. Même les caméras me détectent en direct. On dirait que quoi que j'ai une bombe sous mon ciré. Obligé d'entrer pour payer ou bien de me tirer. Ya, viré, des boîtes de nuit, je peux même plus faire une virée. Barré, délice d'entrée, on me prend pour un taré. Arrêt, sur l'image mate la figure que j'ai. J'ai pas la couleur qu'il faut pour certains l'aspect d'un suspect.
J'ai l'aspect d'un suspect à n'importe quelle heure, frère. L'aspect à n'importe quelle heure, frère. À n'importe quelle heure, frère. J'ai l'aspect d'un suspect. J'ai l'aspect d'un suspect. À n'importe quelle heure, frère. L'aspect à n'importe quelle heure, frère. Suspect à n'importe quelle heure, frère. J'ai l'aspect d'un suspect.
Tous les patrons inconsidérément. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire.
Écoute, voix
de fait, madame.
Alors, on remercie M. Chartrand de nous avoir fait une jolie présentation. Alors, ben bonjour, je suis Guillaume et je suis en compagnie de Marie du collectif Canada Afrique et de Monsieur Alain Deneau, qui est l'auteur principal du livre Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique et membre du collectif Ressources d'Afrique. Donc, ben bonjour.
Bonjour.
Bon, ce livre-là, Noir Canada, vous en avez probablement entendu parler parce que il est actuellement poursuivi par deux compagnies minières canadiennes, soit Barrick Gold et Banro. Ces deux compagnies-là réclament beaucoup d'argent, en fait, pour par rapport aux allégations qui seraient contenues, qui sont contenues dans ce livre-là et que qu'elles considèrent. En tout cas, abusive, mais donc c'est cette slap là, comme parce que c'est effectivement de ce dont il est question, vise à faire taire les auteurs, mais donc la compagnie d'édition Éco-Société et l'auteur principal se battent actuellement pour faire en sorte que ce soit remis de côté. Je crois, Monsieur Deneau, que pour vous c'est un combat vraiment qui représente vraiment un combat important par rapport à la liberté d'expression actuellement, ce qui se passe avec votre livre.
Ouais, il est entendu que cette histoire autour de Noir Canada, cette histoire judiciaire, ne concerne pas seulement l'ouvrage d'un collectif sur les abus recensés dans des sources sérieuses en Afrique de la part de compagnies canadiennes, mais aussi la possibilité même d'écrire d'une manière critique sur notre monde des ouvrages. Et ce que l'on est aujourd'hui à attaquer en justice, c'est cette possibilité-là de travailler d'une manière documentaire, donc à partir de sources, pour remettre en cause, je dirais, les discours et les injonctions de pensée qui sont ceux aujourd'hui de différentes formes de pouvoir. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si dans notre démocratie, ou en tout cas dans notre régime qui se présente comme étant démocratique, on peut encore mettre en doute les discours qu'on nous sert, mettre en doute la légitimité d'un certain nombre de politiques et l'activité d'un certain nombre d'industries, notamment à l'extérieur de nos frontières. Est-ce qu'on peut remettre en cause ce qu'on nous sert comme étant l'évidence même, ou ce qu'il faut penser, ou ce qu'il convient de penser, ou est-ce qu'il faut obtempérer du moment que des gens puissants nous disent de penser d'une certaine façon? Tout l'enjeu est là. Peut-on encore être critique? Est-ce que on va se faire poursuivre pour diffamation du moment que l'on dit autre chose que « Ah, comme le monde, il est beau, ah, comme le monde, il est gentil », ou est-ce qu'on peut effectivement remettre en doute des activités qui nous concernent puisqu'elles sont d'intérêt public, puisqu'on est lié à elles? Je pourrais y revenir, mais en ce qui concerne, disons, les sociétés canadiennes en Afrique, les Canadiens se trouvent liés à ce qu'elles font, dans la mesure où notre épargne se trouve placée dans ces sociétés que nous citons dans Noir Canada, pillage, corruption, criminalité en Afrique, via la Bourse de Toronto, via nos fonds de retraite, les placements publics, la Caisse de dépôt et placement du Québec, par exemple, les institutions financières, les compagnies d'assurance, ainsi de suite, les REER, se trouvent en quelque sorte drainés par la Bourse de Toronto dans cette industrie minière, notamment, qui est très importante là-bas. 60% des sociétés minières mondiales sont canadiennes, et c'est le Canada est la capitale financière. Enfin, Toronto est la capitale financière des sociétés minières mondiales. Donc, nous, quand nous investissons via des fonds publics ou des fonds communs en bourse, eh ben, c'est dans cette industrie-là. Donc, nous sommes liés, nous sommes concernés pour cette industrie-là. Mais ce qu'on apprend là du fait de ces poursuites, c'est que si on a le malheur de s'investir dans un débat autour d'elles, On risque gros, on risque la faillite personnelle, on risque aussi, vu de tous les dommages que constituent en tant que tel des procédures judiciaires.
Mm-hmm. Mais justement, c'est dans le fond, l'étude que vous avez faite, c'est vraiment par rapport à des compagnies qui jouent beaucoup avec la spéculation boursière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est central à leur activité économique, surtout en Afrique. Là, par rapport à la lecture du livre, c'est ça qu'on apprend, c'est qu'ils vont beaucoup chercher des gisements qui sont supposément riches, mais qu'au fond, on ne sait pas trop parce qu'ils sont jamais vraiment exploités au final, ou en tout cas pas très souvent. Mais par rapport à la crise économique mondiale, pour faire un lien avec la crise actuelle, je veux dire, c'est, cette spéculation-là doit avoir réduite actuellement dans les derniers mois à cause de justement du contexte international.
Les cours financiers n'obéissent pas toujours aux mêmes logiques. L'or, le pétrole, certaines ressources comme les diamants, le coltan, le cobalt, le cuivre, ainsi de suite, fluctuent différemment. Les courbes sont pas les mêmes et la spéculation donc évolue différemment. Donc on peut pas parler d'une manière hypostatique là, d'une crise, une qui emporterait absolument tout le monde de la même manière. Il était bien évident que actuellement l'heure est, oui effectivement, j'aime bien votre question, quoi, l'heure est venue de se poser des sérieuses questions, de s'interroger sur la façon dont nos économies fonctionnent, sur les industries qui attirent nos investissements, les investissements institutionnels, mais aussi l'épargne des gens, et de voir, comment on finance nos piscines creusées, puis nos retraites, et puis nos actifs, et si ça en vaut vraiment la peine. Dans Noir Canada, ce qu'on a fait, c'est pas très sorti, quoi, c'est-à-dire qu'on a colligé des informations toutes disponibles dans l'espace public, elles qui n'ont jamais fait l'objet de poursuites judiciaires, des informations crédibles, de sources sérieuses. On parle de rapports de l'ONU, de rapports d'ONG, Human Rights Watch, Amnesty International, Global Witness, de textes d'experts comme Dominique Johnson ou Colette Brackman ou Jean-Claude Villam, ainsi de suite. Il y a 1213 notes de bas de page là, qui soutiennent un grand nombre de cas qu'on a recensé à l'échelle internationale, les cas d'abus graves. Là, on parle de barrages qui débordent sur des terres arables, qui empêchent l'agriculture, qui amènent les gens à se réfugier par dizaines de milliers, des expropriations violentes là où on veut exploiter le minerai, de la corruption politique, des contrats qui sont absolument désavantageux pour les États et qui nuisent au bien public, au bénéfice exclusif des sociétés privées qui s'imposent, on le devine, par la corruption, ainsi de suite. Donc on fait le cas, on fait la liste, l'inventaire de cas qui ont été étudiés par des sources sérieuses dans l'histoire. Et ce qui nous intéresse, c'est l'abondance, c'est la tendance. C'est-à-dire, il y a tellement de cas qu'on peut trouver dans le domaine public, cela doit bien vouloir dire quelque chose. Il ne se peut pas que tous ces experts, que tous ces observateurs, tous ces journalistes, tous ces commentateurs, tous ces africanistes, tous ces universitaires, en même temps délirent de la même manière dans différentes villes du monde, alors qu'ils travaillent pas pour les mêmes organisations et qu'ils travaillent même pas dans les mêmes corps de métier. Donc, il y a bien, à un moment donné, un postulat qu'on peut faire, à savoir qu'il y a un système de domination de la part du Canada en Afrique. Ce système-là s'intéresse beaucoup aux mines, mais il s'intéresse aussi au pétrole et au monde pharmaceutique et aux ressources énergétiques, l'hydroélectricité, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser de ce point de vue-là, d'autant plus que le Canada, comme institution politique, soutient ces sociétés coûte que coûte, a les allures à l'échelle internationale d'un paradis judiciaire. C'est-à-dire que les sociétés canadiennes peuvent s'enregistrer ici, ou les sociétés étrangères peuvent s'enregistrer au Canada et commettre potentiellement à peu près tout ce que bon leur semble à l'étranger, s'il faut financer des mercenaires ou des seigneurs de guerre. On semble pouvoir le faire. S'il faut exproprier violemment des paysans, on semble s'autoriser à le faire. Ainsi de suite, s'il faut corrompre, on corrompt. S'il faut pratiquer l'évasion fiscale pour être compétitif, on le fera. Ainsi de suite. Et tout ça se déroule avec les témoignages de documents sérieux, sans qu'aucune autorité publique au Canada ne se manifeste, ni le gouvernement de l'Ontario qui a pourtant à contrôler sa bourse de Toronto, ni le gouvernement fédéral. Et donc on peut se demander si le Canada n'est pas un paradis judiciaire, c'est-à-dire que quiconque qui s'inscrit ici en bourse à Toronto ou s'enregistre à Toronto dans le domaine minier ou autre, a en quelque sorte bénéficié d'une couverture juridique ici, du moment qu'il agit comme il le veut, vivre sans entrave à l'extérieur des frontières canadiennes. Donc, c'est ça un paradis, quoi. C'est qu'on permet à des sociétés qui agissent ailleurs de faire ce qu'elles veulent en bénéficiant d'une couverture dans un lieu particulier. Et la question qui s'ensuit, je pose un dernier point, là, la question qui s'ensuit, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en coûte pour qu'une action monte à la Bourse de Toronto dans un contexte comme celui-là où, manifestement, les sociétés peuvent tout faire du moment qu'elles agissent à l'extérieur des frontières canadiennes. Qu'est-ce qu'il en coûte quand une action monte à la Bourse de Toronto parce qu'une société revendique effectivement une concession minière au Congo ou au Ghana ou ailleurs dans laquelle il y aurait effectivement beaucoup d'or, beaucoup de cuivre, beaucoup de cobalt, beaucoup de je ne sais trop quoi. Qu'est-ce qu'il en coûte lorsqu'on on présente des documents rutilants à Toronto pour attirer les investissements? Est-ce qu'il faut corrompre? Est-ce qu'il faut piller des territoires? Est-ce qu'il faut dévaster des territoires? Est-ce qu'il faut exproprier des gens? Est-ce qu'il faut polluer? Est-ce qu'il faut pratiquer l'évasion fiscale? Est-ce qu'il faut armer des milices? Est-ce qu'il faut pactiser avec des seigneurs de guerre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une action monte à la Bourse de Toronto? C'est une question tout à fait légitime que nous posons, mais qu'on veut empêcher actuellement, manifestement, par des voies judiciaires.
Puis ça, tout ça, bien sûr, c'est tu sais, on parle de paradis judiciaire au Canada, on parle de, aussi donc de paradis fiscaux aux Bermudes, et etc., mais on parle de, aussi de la création d'un enfer pour les collectivités locales en Afrique. Là, on parle de vraiment d'une destruction de tout ce qu'ils ont connu auparavant, là, quand les milices arrivent et tout. Là,
Tout à fait, c'est un triangle qu'on se doit d'analyser, celui que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le Canada comme paradis judiciaire des sociétés minières et pétrolières d'exploration. C'est un pôle de légitimité formidable pour ces sociétés-là. Le Canada a une bonne réputation dans le monde, mais en même temps, sous la couverture canadienne, manifestement, on se permet beaucoup de choses à l'étranger. Il y a ensuite une connexion financière avec les paradis fiscaux qui se fait d'une manière tout à fait lubrifiée. On a été surpris, nous, en étudiant le cas d'Emaxon, une société dont on analyse autant que faire se peut les mouvements et les activités à Montréal, qui est très, très présente au Congo, Kinshasa, qui est tout à fait liée à des paradis fiscaux des Caraïbes, qui peut être même gérée de là sans que cette société de droit canadien en quelque sorte, ajoute du sable dans cet engrenage offshore. Là, au contraire, je veux dire, les montages financiers qu'on construit depuis les paradis fiscaux se servent de sociétés de droit canadien sans problème. Et il y a le problème à la source des ressources qu'on paye via dire, toutes sortes de techniques, corruption et autres.
Bon, effectivement, mais il y a on parle ces temps-ci d'une ressurgescence ou en tout cas de la guerre au Congo là qui semble soit repartir de plus belle, soit se stabiliser avec l'intervention du Rwanda. Est-ce que ça a rapport encore avec avec les compagnies minières canadiennes ou c'est une autre zone de conflit ça?
Ben le chef de file de la rébellion du Nord Kivu qui s'est fait arrêter récemment en raison d'un tandem entre Kinshasa et Kigali, hein, qui est assez assez embrouillé. Donc le général Nkunda, qui était un ex-général de l'armée du FPR, est quelqu'un qui assez vite, quand il s'est prononcé publiquement, a expliqué qu'il voulait revoir les contrats avec les Chinois, contrats miniers. Et tout ça confirme, je dirais, un cadre théorique qui nous a été donné mieux que par quiconque, là, par les experts mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui nous font clairement comprendre qu'au Congo, Kinshasa et dans les Grands Lacs, si effectivement il y a une guerre pour les ressources minières entre des factions, entre des clans, entre des groupes, entre des États voisins et disons, l'armée congolaise, c'est toujours en fonction d'une présence de sociétés multinationales sur place. C'est toujours par différentes collusions entre des multinationales, des sociétés juniors d'exploration minière, des milices sur le terrain, des acteurs politiques. Et on a là une grille de lecture qui est absolument indispensable pour comprendre ce qui se passe et nos sociétés sont concernées très souvent.
Merci beaucoup, c'est vraiment très très intéressant, ça aurait été vraiment intéressant de continuer. Malheureusement, on n'a plus vraiment de temps, mais il y a des activités demain qui continuent avec M. Deneau.
Oui, c'est ça, si vous voulez poursuivre votre réflexion à ce sujet-là, on a organisé une journée demain donc spéciale. À 11h30, au De Coninck, au pavillon 3A, il y a une conférence donc d'Alain Deneau, et puis après projection d'un film, Bulunyaulu Case, donc qui se passe en Tanzanie. Et puis le soir au Café Nagua à 19h, il y a aussi projection d'un film Le Prix de l'Or et puis débat après avec en présence d'Alain Deneau. Donc je vous invite vraiment à venir là parce que justement on va pouvoir avoir toute la journée pour parler de ça. Donc je pense que c'est même pas assez une journée là pour en parler. Donc parler de la responsabilité les responsabilités du Canada en Afrique. Voilà.
Ben, merci beaucoup Marie, merci beaucoup Alain Deneau.
Merci.
Alors vous écoutiez Voix de fait. Et je suis Guillaume, mais il y avait aussi Nicolas et Jenny, désolé. Et c'était Farouko à la console. Alors on vous dit bonne semaine, à bientôt.
Bon sang, on vit en société, on pourra-tu avoir des moyens collectifs pour organiser cette société-là?
Oh, never hit your grandma with a shovel.
Vous écoutez, Voix de paix.
Ramène dans le temps pour quelques instants. Vous dévoilez des faits qu'on n'apprend pas forcément. J'entretiens une autre histoire, celle qu'on voit pas dans les cours. Amérindiens et les noirs, c'est qu'il faut remettre à jour. Par où commencer, comment dire comment. C'est d'abord faut nuancer l'histoire et romancer.